Hey ho, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, c'est plumé pinceau. Ça hésite encore un peu dans le fait beau, fait pas beau, mais ça ne nous arrêtera pas. Nous serons toujours là pour parler 9e art. Pas vrai, Roger?
C'est bien. Moi, voilà. Je dis c'est bien. Il y a un peu de manque d'enthousiasme dans le qu'il pleuve ou qu'il fasse beau.
Ouais, peut-être.
Peut-être que c'est lié aussi à effectivement la météo qui est quand même plus branchée sur le il pleut. Mais là, il fait beau. Vous avez bien raison. Profitons-en.
Aujourd'hui, des chroniques, des news et des chroniques. Et puis de la musique, bien sûr, évidemment. Je vous propose, moi aussi, j'aime bien les pecnos, notamment les pecnos australiens. Tu sais comment on reconnaît un pecno australien?
Il a le cou rouge.
Il a le cou rouge, exact. Il est en tong et il conduit une Volvo. C'est voilà. Les Drunk Mums. Wake up from a coma, I'm deep in beneath some bed of my own. Gas from the hours of drinking and gathering the things that I own or I've owned. These girls just keep us up all night, they're robbing us of the day. We're nocturnal in daylight, our eyes are fading away. And now that's alright, we can live through the night and the day. Because we're off the razor shine on my head, but I got no fingers and toes. My blood's still pumping when I'm dead. But I will hope for my eventual goals. Now that's alright, we can live through the night and the day. Cause we're roughed up kids in a small town out of the way. But that's alright, the night and the day. Because we're roughed up kids in small towns out of the way. Now but that's alright, we can live through the night and the day. Shining on my head, tower over my eventual goals. But blood's still pumping when I'm dead. Tower over my eventual goals. We'll tower over my eventual goals.
Tower over my eventual goals.
Tower over my eventual goals.
Je dédicace ce morceau à tous ceux qui ont été obligés de retourner à l'internat. Ils se reconnaîtront, eux aussi, je pense, ont envie de prendre la route dans une vieille Volvo pourrie avec des copains et ouais. Voir des coups.
Et des copines aussi, peut-être.
Là, non, c'est plutôt garçon.
Un stage de virilisme, en fait.
Peut-être.
Mathieu Kassovitch, vous savez qui c'est?
La haine.
Voilà,
c'est cinéaste. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il fait une apparition assez rigolote dans le sixième élément.
Le cinquième
élément.
Ouais. Ouais.
Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il est un peu branché dans le rap.
Il a fait un film plus sérieux. Il a fait un film qui n'a pas marché, il paraît aussi.
Il s'est intéressé à la grotte de Ouvéa aussi, je
et
crois.
Il vient de sortir un film documentaire sur la marijuana, là, comment tout ce qui tourne autour de la...
Oui, qui est...
Ouais, qui est passé à la télé.
Ouais, il n'y a pas très longtemps. Et bien là, il veut comment mettre en scène, ni plus ni moins, que La Bête est morte, publié en 1944 du dessinateur Calvo et des scénaristes Victor Dansette et Jacques Zimmermann.
Ah oui.
Vous, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais vous connaissez forcément cette bande dessinée parce qu'elle a été retirée.
C'est le loup, là, ouais, on voit le hitlérien qui lève le bras.
Les Français sont représentés sous forme de lapins, les Anglais d'écureuils, etc. Mm. Et ce sont les victimes, bah, naturellement, des loups allemands.
Mais alors, c'est une allégorie de la Seconde Guerre mondiale.
Voilà, c'est très très bien. C'est Calvo. Enfin, Calvo a fait aussi plein plein d'autres choses. Moi, ce qui m'a... Alors, il y a une chose qui m'a rassuré, c'est que déjà, dans la distribution, il n'y a pas clavier. Donc là, déjà, bonne nouvelle. Tu as raison, Mathieu. Prends pas clavier. Autrement, il sera, si ce film doit voir le jour, parce que c'est pas encore sûr, parce que bah, il est en train de chercher des sous, devrait être épaulé de Caroline Thompson, connue notamment pour avoir travaillé la copie d'Edouard Romain d'Argent, La Famille Adams ou L'Étrange Noël de Monsieur Jack, quand même. Et ça sera un film, alors ça peut être intéressant parce que les techniques ont évolué. Si j'ai bien compris, moitié prise réelle, moitié dessin. Vous voyez ce que je veux dire, dessin animé?
Tout à fait, je vois, ouais.
Et donc là, on est encore en phase préliminaire, tout n'est pas encore bouclé. Il a déjà chopé des artistes, mais je vous dis, il n'y a pas clavier, donc ça c'est bien, sûr, on est sûr. Puisqu'il parle,
ça fait deux fois que vous en parlez dans la même rubrique, hein.
Parce que non, mais il a quand même pourri l'enquête Corse, il a pourri des tonnes de choses. Non, c'est bon, clavier, reste chez toi en Corse. Et comment
Et bien,
le seul
ça
truc,
c'est fait.
Donc ça peut être une bonne nouvelle pour peu qu'effectivement. Effectivement, ce film-là répond aux attentes des cinéastes, c'est-à-dire de ceux qui vont aller voir ce film-là. Espérons que ce soit intéressant. Maintenant, Mathieu Kassovitz, c'est pas quelqu'un qui, enfin, c'est quelqu'un qui a même pas la réputation de faire de la merde, d'essayer de faire des choses bien. Donc, on va voir ce que ça va donner. Le truc qui m'a saoulé, par contre, c'est qu'il a fallu que je fouille. Vous savez, quand vous tapez Google Info, vous voyez une info, toutes les nouvelles sur ce sujet.
Ouais.
Eh bien, sur 5 journaux, un seul journal rappelait que cette BD venait du dessinateur Calvo et du scénariste Victor Dansette et Jacques Zimmermann. Ça m'a un peu saoulé. C'est-à-dire que vous voyez comment les médias mainstream reprennent une info. Bon, il reprend La Bête est morte, le titre est à peine cité, parce qu'en fait, ça va s'appeler The Big War, si ça voit le jour. Et là, La Bête est morte n'est même pas cité, les autres... Ouais, une bonne BD dans les années 40.
Sympathique.
Ça me saoule, mon bon Erwan, la bande dessinée n'est pas encore si bien reconnue que ça, et en tout cas, on la prend un petit peu de haut. Voilà ce que je veux dire.
Moi, j'ai une news intéressante, Back from the Dead, la série Requiem Chevalier Vampire, qui avait été interrompue il y a plus de 12 ans, et ben revient. Le dessinateur Ledroit s'y est recollé avec son comparse Mills au scénario pour enfin nous annoncer le 12e tome de cette série après 12 ans d'absence. Franchement, on n'y croyait plus. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont revendu la série et en fait elle ressuscite, elle revient. Le 12e épisode, ça va être l'avant-dernier, va enfin sortir. C'est assez incroyable. Du coup, un truc assez intéressant, enfin assez rigolo. Si vous êtes sur Paris ou si vous montez sur Paris, je pense que ça vaudra le coup. À l'Atomic Cad, dans le 11e, le 2 mai, je crois, le jour de la sortie, il y aura une dédicace immersive. C'est-à-dire, ils vont ouvrir les portes à 18h. Et puis, tu sais, il y aura des gens déguisés, du maquillage, des acteurs pour essayer de faire une dédicace qui baigne dans un univers gothique comme la série Requiem Chevalier Vampire. T'as des vampires, t'as des SS, t'as des gargouilles, t'as Torquemada, t'as des zombies, pirates. C'est vraiment une super série, mais qui joue.
C'est l'occasion de sortir son vieux costume de SS.
Ah ouais,
en fait.
Ouais. Si tu viens déguisé, je suis sûr qu'il te file un truc, un briquet, quelque chose. Mais ça peut être très rigolo en fait, parce que il y a vraiment la force de cette BD, c'est justement qu'elle dégage un univers, quoi. Moi, je l'avais suivi. Monsieur Ledroit était venu deux fois à Rennes. D'ailleurs, j'ai deux super dédicaces de lui. Il y a un super loup-garou et une. Il faudra que je te la monte. Une pirate zombie qui te plairait bien, corset. cancer comme ça, mais qui est hérité un peu, tu sais, des vieux films en noir et blanc de pirates où t'avais toujours la, tu sais, la meuf chef d'équipage, tu vois.
Elle a la moustache.
Non, elle a pas de moustache. Enfin, mais vous êtes un salisseur. Vous êtes un salisseur. Tout ça parce que Requiem Chevalier Vampire, ça vous parle pas. Et pourtant, tu sais que le premier épisode, je l'avais chroniqué sur Plume et Pinceau il y a fort, fort longtemps.
Mais c'est peut-être parce que c'est il y a fort, fort longtemps. C'est peut-être pas moi, c'est peut-être mon frère.
C'est ça, ouais, c'est ça. Bref, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que donc le 12e épisode, La Chute de Dracula, apparaît. C'est l'avant-dernier. On se dirige vers un final en 13 tomes. Et alors, pour ceux qui veulent découvrir, eh ben, il est jamais trop tard. Et puis, les vieux crabes, yes, on a bien fait d'être persévérants parce que la série revient. Interlude musical.
Yep.
Wingo Bongo. Pouvez-vous
Oingo Bongo.
Dites-moi en plus, qu'est-ce que c'est que ça?
Ça, c'est un excellent groupe californien des années 80-90. Je crois que, toute fin des années 90, ils ont disparu en tant que groupe qui se produisait sur scène. Mais on les retrouve, notamment Danny Elfman, puisque c'est signé en son nom, sur la plupart des musiques de films de Tim Burton.
D'accord.
Et c'est marrant, ça faisait longtemps que je n'écoutais, j'avais pu écouter du Oingo Boingo, et je me suis mis à en réécouter ces trois derniers jours, et j'ai retrouvé la richesse, le péchu de cette zik là. Et vous allez voir, et en plus de ça, des petites rythmiques qui vous plongent dans ce que l'on connaît par la suite de l'univers de Tim Burton.
Wingo Bongo running on a treadmill. Je sais pas si je l'ai bien dit.
Non.
En fait, Au début, je pensais que ça faisait un peu Talking Heads, mais en fait, plus j'y pense et plus j'écoute le morceau, plus je pense plutôt au Dixie's Midnight Runner. Je sais pas si vous voyez.
Sur ce morceau-là, c'est possible. Ouais. Mais ouais, trouve, vous allez voir.
Ça fait anglais.
Ouais, mais je mets un peu gouré dans ma liste de morceaux. On va en choisir un autre tout à l'heure si.
Deux pour le prix d'un.
Ouais, deux pour le prix d'un parce que c'est comme ça.
C'est les soldes. Allez, c'est plus mes pinceaux, c'est généreux.
Justement, deux pour le prix d'un, il y a des choses qui vous reviennent. Et une nouvelle pétition contre Bastien Vivès à l'occasion de son exposition chez Liberty et Bren à Bruxelles.
Ouais.
C'est un petit peu saoulant. Alors le texte de la le texte de la pétition, c'est ça, contre Bastien Vivès, ce dessinateur fait la promotion sur la culture du viol, de l'inceste et de la pédophilie dans ses bandes dessinées. Il a déjà été déprogrammé de plusieurs événements grâce à la mobilisation du public, notamment au festival d'Angoulême. Cette pétition a pour but de faire pression sur la galerie pour montrer notre refus de la promotion d'un individu, blablabli, blablablo. Ça n'arrête pas. Et effectivement, alors là on est en Belgique, alors je sais pas comment les lois belges fonctionnent exactement, parce que même chez nous ça devient de plus en plus subtil, c'est ce que vous rappeliez il y a déjà la semaine dernière, il y a 15 jours.
Ouais.
Ça devient très très compliqué, parce qu'en fait on peut être poursuivi, pas condamné, et 6 mois après, pouf, on peut revenir encore sur la gueule. Alors, je ne sais pas si c'est pour ça en Belgique. Quoi qu'il en soit, la seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est que selon le quotidien belge à dernière heure, la galerie a pris connaissance de la pétition et semblerait qu'elle ait décidé de maintenir l'événement.
L'inauguration a eu lieu le 11 avril.
Yes, bien.
Et il y a eu une manifestation devant. C'était apparemment assez tendu, d'après ce que j'ai lu un peu sur le net, puisque j'étais pas à Bruxelles à ce moment-là. Effectivement, l'Observatoire de la liberté de création avait fait observer qu'il y avait une forme d'injustice et d'incohérence. On pouvait être perpétuellement réattaqué sur les mêmes sujets pour le même dessin. Et c'est encore le cas finalement à Bruxelles, quoi. Bastien Vivès n'est pas condamné. En plus, je crois que la justice et les politiques ont bien regardé ce qu'il y avait dans l'expo. D'après ce que j'ai compris, ça a été contrôlé. Et il n'y a pas d'image des trois albums controversés. Donc en fait, il faut pas oublier quand même que Bastien Vivès à un moment, bon, il a chuté, quoi. Mais à un moment, c'était quand même un artiste renommé, quoi. Il a été adapté au cinéma. Il comptait vraiment. C'était la nouvelle vague, hein. À un moment, il avait le vent. C'était aussi une star. C'est pour ça que aussi il y a des expositions qui peuvent se monter. C'était pas n'importe qui. Donc c'est vrai que c'est très étrange ce qu'on a adoré hier et brûlé maintenant.
Là, il y a un vent de réaction. Je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même toutes les semaines maintenant qu'on arrive à trouver, à échanger sur des nouvelles qui font référence à de la censure ou de la mi-censure ou des menaces quand la mère Chikirou, vous n'aurez pas votre
dédain,
haine,
dédain,
mais vous la
méritez.
Comment le parti communiste japonais qui, comme moi, veut flinguer les mangas. Enfin bref, la semaine dernière.
Ça, c'était drôle quand même.
Ouais. Donc, du coup, j'ai le droit à encore une dernière nouvelle, alors, du coup, parce que la nôtre.
J'ai quelque chose à dire.
Ah, je croyais que c'était la même.
Non, pas du tout. Non, moi, j'ai un anniversaire à fêter parce que vous aimez bien enterrer les gens, mais moi, j'aime bien souhaiter les anniversaires. Toujours vivant, K1KA, Futuropolis. Futuropolis a été créé en 1974, mon bon Roger. Et nous sommes en 2024.
Ah,
c'est
très
donc
bien.
50 ans d'existence qu'on peut fêter. Sorti en janvier 1934, le 30-40 de Calvo fut le premier titre des éditions Futuropolis. Et peux-tu nous rappeler qui va fonder les éditions Futuropolis, mon
Alors,
bon Roger
je me demande
qui
si
avait
y a...
fondé.
Alors attendez, il y a Futuropolis, comment il doit y avoir Robial.
Bonne réponse.
Ils sont 4.
Et il y a surtout, on
y
va
a Dionnet.
Dire, oh, pas mal. Moi, je pensais plutôt à Florence.
C'est Stack.
Exactement. Belle maison d'édition qui a toujours fait des beaux livres. Nous, on en a lu plein. À un moment, on était vraiment dedans. Il y avait les Pendanx et tout ça.
Oui, et qui continue après.
Ça a été de très beaux livres. Oui. Dans les anciens, il y a eu du Tardy.
Comment ça se fait que vous avez le petit déplié, Alors, ça sent le briquet que vous avez chippé.
Non, je l'ai trouvé.
Ça sent le briquet chippé.
Je l'ai tout simplement trouvé à ma bibliothèque municipale.
Ah, ok.
Ça faisait partie des documents. Un joli petit bouquin, ouais. Enfin, comment on pourrait appeler ça?
Un encart publicitaire.
Un petit encart publicitaire qui fait une petite histoire de Futuropolis. Je trouve très sympa. Je vais la glisser dans un album que j'ai.
Ouais,
c'est eux qui nous ont fait, nous ont fait lire avec des beaux livres. Étienne Davodeau, Jean-Claude Denis, qui est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Luce, si je crois bien, si je me rappelle pas. Tardy, évidemment. Vraiment plein de noms. Pendant que c'est la Beach. C'est
ouais,
ça.
C'est ça.
Jérônimous, Dabitch. Ouais. Enfin, c'est une belle maison d'édition. Elle a 50 ans. Elle est toujours là. Les productions sont peut-être un peu confidentielles, mais ça reste du bel ouvrage.
Ça dépend. Ça dépend.
Ah, maintenant dans le beau livre, tout le monde fait des gros efforts, je trouve. Mmh. Il y a quelques années encore, vraiment Futuropolis, pour moi, c'était dans les plus beaux les objets, quoi.
Oui, il y avait aussi.
Maintenant, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, quoi.
Il y a Monsieur Chris qui a travaillé beaucoup avec Futuropolis et qui nous disait que justement des aspects qui lui plaisaient, en tout cas à l'époque, chez Futuropolis, c'était que les auteurs pouvaient avoir négocié sur la forme que prendrait l'ouvrage, etc. C'était pas bêtement calibré.
Exactement.
Une petite dernière quand même, j'ai le droit à une petite dernière. C'est peut-être une bonne nouvelle pour vous.
Ah, bon, elle est faite.
Est-ce que vous avez le premier numéro d'Action Comics où l'homme d'acier a fait sa première apparition?
Attends, c'est con parce que je l'ai prêté à ma nièce. Je dois me le rendre tout.
Elle l'a gribouillé. L'homme d'acier a fait sa première apparition en 39. C'est con, vous l'avez pu?
Non.
C'est dommage parce qu'il a battu un record de vente aux enchères. Il a atteint le prix record de 6 millions de dollars lors d'une vente aux enchères organisée le jeudi 4 avril par Heritage Auctions.
Non, mais je suis con, je l'ai échangé contre une vignette de Basile Boli pour mon album Panini. C'est con.
Jusqu'à présent, le record du comics le plus cher au monde était détenu par Superman One, vendu en 2022 à 5,3 millions de dollars. Et en 2021, un exemplaire en parfait état d'Amazing Fantasy 15 avec la première apparition de Spider-Man avait trouvé acquéreur pour 3,6 millions de dollars. Ça serait quand même peut-être bien que vous regardiez vos stocks, d'autant que d'après mon article, les prix s'envolent. Les comics d'époque et les planches originales mettant en scène les super-héros de Marvel cartonnent aux enchères. Une planche originale, vous n'avez pas ça?
Non. Vas-y, t'as pas quelque chose?
Mettant en scène Spider-Man dans le numéro 8 des Guerres Secrètes a été vendu 3,36 millions de dollars.
Je sais même pas pourquoi vous me parlez de ça. Ça nous concerne pas. De quoi tu... Non. Tant que tu parles de Marvel, pour montrer que je m'intéresse quand même encore à cette grande maison, c'est les 50 ans de Daredevil. On peut dire bonne
fête. Vous avez le premier Daredevil?
Non.
Alors justement, le premier Daredevil.
S'il y en a un qui peut l'avoir, c'est peut-être Laurent Lefebvre, parce que je sais que c'est un grand amateur de Daredevil. Son Fox Boy est très...
Et on rappellera son adresse sur le site de l'émission, des fois que ça intéresserait des gens de les dévaliser, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Un interlude musical. Tu aimes le tennis? Aimez-vous le tennis?
Vous allez même mettre les Björn Borg.
C'est ça, ouais. Non, c'est The Courtings. Et le morceau s'appelle Tennis.
Luxury furnishing. Do we all take it a bit? down the side, you're a night in the Holiday Inn. I'm a breakfast bar, unusual, toasting conveyor. This is not your name, you don't own it, and we can't share it anymore. I've grown up so much since Tuesday, and I can count the hairs on my chest now. All the best to the sleigh bell operator. But I can go on alone. This is a solo project, and the hits will be stronger for it.
Been playing ball for over a year. Been playing ball for over a year. Just playing tennis. Just playing tennis.
Ça dépote pas ce morceau, ça dépote pas franchement.
Si c'est bien, un peu brouillon mais c'est bien.
Oh un peu brouillon. Non, vous commencez à avoir des goûts de luxe je trouve.
Tout à fait.
Ça vous fait chier le garage maintenant non?
Je trouve que ça sent un peu la sueur, c'est vrai. Ouais. Avant quand je me lavais pas j'aimais bien mais maintenant que j'ai pris goût à la douche.
Bon, si on chroniquait un petit peu, vous voulez commencer ou je commence?
Allez-y.
Ah, c'est gentil.
Vous avez des gros livres en plus.
Ouais, j'ai ramené du lourd. Alors, je sais pas si on va pouvoir tout chroniquer parce qu'on n'arrête pas de parler d'actualité. Mais je sortais de garde à vue avec mon ami David et on se plaignait qu'on aimerait bien s'échapper dans les étoiles et il m'a proposé une super série. 2001 Night Story vient d'être réédité par Glénat. C'est l'œuvre de Yukinobu Oshino que je ne connaissais pas. Et donc le gars David m'a dit je viens d'acheter ça, ça ressort en version de luxe, faudrait que tu lises. Et en fait c'est vachement bien. C'est clairement inspiré, du moins au départ quand même, de 2001 de l'Odyssée de l'espace, parce que ça commence d'ailleurs avec une espèce de scène qui reprend l'idée tu sais du singe quand tabasse un autre avec un os et l'os devient ensuite un vaisseau spatial et c'est l'histoire après de l'humanité qui part cette fois à la conquête de l'espace, une nouvelle étape de l'évolution quelque part qui est en jeu. Et en fait, c'est organisé en 19 petites séries. Il y a deux tomes en fait, 19 petites nouvelles qui vont nous permettre de suivre la conquête de l'espace. Ça part de la découverte d'un morceau de météorite géante dans un cratère près d'une base lunaire, et puis ça devient une espèce de ruée vers de nouvelles ressources naturelles qui seraient nichées toujours plus loin dans l'espace. Et donc tu vois les étapes et l'avancée de l'exploration du système solaire puis des galaxies plus éloignées que fait l'homme, quoi. Une nouvelle étape de l'évolution. Et graphiquement, c'est vachement bien. Tu vois clairement que c'est un peu daté. Tu vois que c'est la période Otomo parce qu'il y a des parallélismes, des ressemblances. Je sais pas s'ils se connaissaient, s'ils se sont inspirés, parce que franchement, je connaissais pas ce monsieur Oshino. Mais c'est hyper bien. Les vaisseaux sont d'une beauté. Il paraît même que les scientifiques actuels, en regardant ces vaisseaux, puisque la série doit dater des années 80, si j'ai bien compris, trouvent que vraiment, il avait dessiné des choses et évoqué des thèmes qui se posent vraiment actuellement dans les questions de conquête de l'espace. Il joue avec plein des connaissances scientifiques. C'est vraiment de la science-fiction, tu sais, mais au sens pur, la conquête de l'espace, sans le côté space opéra, etc., etc. Et du coup, c'est vachement bien. Tu sens qu'on ne te prend pas pour un couillon. Il y a des références scientifiques, mais aussi des références mythologiques. Même à un moment, t'as une espèce de cosmonaute, en fait, qui est un prêtre, quoi. Envoyé par le Vatican avec le mythe de la 9e planète.
Après les prêtres ouvriers, les prêtres cosmonautes.
Ouais, parce que il est envoyé par le pape parce qu'on a découvert une 9e planète dans le système solaire et qu'on a appelé Lucifer, tu sais, et qui serait apparemment une planète faite d'antimatière. En fait, la découverte de ce truc va nous permettre de faire des bonds dans l'espace après, tu sais, d'avoir l'hyperespace, là, comme on avait inventé. La question énergétique est vachement là. C'est vachement intéressant pour ce côté vraiment hyper réaliste.
Je vois le format, c'est un énorme livre.
C'est magnifique.
Non, mais je veux dire, c'était paru en
couverture.
C'était des mangas.
C'était des mangas.
Alors comment c'est du coup comment c'est présenté
parce eh ben, que là, on est plus par... dans le manga. Ah non, c'est plutôt on est plutôt dans le grand livre comme peut être le grand comics de luxe avec la couverture à rabat. Regarde, tu as même des posters à l'intérieur, okay. Vraiment les
objets. Mais qu'on lit à l'envers aussi chenille. Comme le manga, on conserve
ça. Ça on garde ça, oui, quand même. Okay. Quand même on lit on respecte l'œuvre japonaise mais vraiment dans une version de luxe quoi. Et c'est super bien. J'ai pas beaucoup aimé la je crois que c'est la cinquième nouvelle. Ça parle de Kark de 9000 qui est vraiment une référence, tu sais, aussi à l'espèce de d'intelligence artificielle que tu as dans l'Odyssée de l'espace. Ah, je sais plus son nom, mais vraiment ça reprend ce personnage là d'intelligence artificielle qui est envoyé dans l'espace. Pfiou, il va servir de d'intelligence et de guide à une expédition qui est en fait une expédition de spermatozoïdes et d'ovules qui sont envoyés vers l'espace. Dans l'espace. Et en fait, avec les avancées technologiques, tu vas retrouver ce même vaisseau dans une autre histoire, mais en fait, la constructrice a voyagé en hyperespace et retrouve l'objet qu'elle a envoyé 50 ans avant. Et c'est vachement intéressant cette rencontre parce que l'intelligence artificielle, tu le sentais bien, avait développé avec une espèce d'empathie avec sa créatrice, un vague sentiment amoureux. Vraiment, il s'était humanisé. Et quand on le retrouve, il a perdu son antenne qui lui permet de communiquer avec la Terre. Donc il est vraiment dans un truc de solitude et il accomplit sa mission et tu sens qu'il a vraiment souffert de ça.
Et donc il va... a la haine.
Non, tu sens plutôt un esprit triste quoi. Et le vaisseau qu'il va rencontrer pendant vraiment un tout petit temps, et il va essayer de rentrer en contact avec pour accomplir sa mission de rencontre d'autres espèces, c'est finalement celui de sa créatrice qu'elle a pris et qu'elle a voyagé en accéléré, donc elle l'a doublé et elle arrivait au point de rencontre. Donc il y a lui qui lance ces espèces de SOS avec presque ça donnera un sens à mes 50 ans de voyage. Et de l'autre côté, tu as sa créatrice qui, elle, ayant voyagé ayant fait un bond dans le temps grâce à des technologies, a rendu sa propre création obsolète. Donc elle veut pas prendre langue avec lui pour pas lui révéler la vérité que finalement, ouais, son expédition a servi à rien puisque maintenant, on le dépasse, quoi. Ah ouais. Et cette espèce de, tu vois, de ce choc émotionnel, c'est vachement puissant. Vraiment, c'est hyper bien construit et c'est des chouettes petites nouvelles. Et t'as toute une progression, ça forme un grand tout, quoi. Et c'est l'expansion dans l'espace. Et c'est graphiquement, je te jure, c'est chouette. Les vaisseaux sont super bien, mais toutes les scènes dans l'espace et les scènes des fois un peu, métaphysiques, sont vraiment super bien rendues. Avec un manga, donc faut en référence graphique chercher du côté d'Otomo, quoi. Et vous verrez ça. Donc ça apparaît chez Glénat. 2001 Night Story, 2 volumes.
Deux
gros comme ça. Alors à mon avis quand même ça, ça coûte cher. Hein. Je pense que ça coûte cher. Mais
il est riche votre ami.
Ah bah c'est pour ça qu'on était en garde à vue. Voilà pour moi. Et donc ah oui, alors je me relance. Yukinobu Oshino.
Voilà.
2 épisodes. Voilà. Je vous passe le micro, mon bon Roger.
Alors moi, je vais rebondir avec quelque chose
pardon, rien à voir.
Rien à voir, mais rien à voir du tout.
C'est ça qui fait notre charme.
Voilà, j'ai reçu un petit message amical, mais comment ferme, qui me rappelle, dis donc Lionel...
Je sais où t'habites, tu vas bosser feignasse.
Je sais où tes enfants vont à l'école. Et alors que je t'ai prêté un exemplaire de La Vengeance, aux éditions Anspach, de David Vautier, dessiné et écrit par... scénarisé par monsieur David Vautier, j'en ai effectivement pas encore tout de suite parlé. Mais il faut savoir, Emmanuel, tu connais mon côté fleur bleue, et quand j'ai lu le quatrième de couverture, le quatrième de couverture, c'est « Papa, est-ce qu'on ne devrait pas abandonner ?» J'ai juré d'avoir leur peau, Anna. Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait à maman. Ouf ! La vengeance. Donc voilà, effectivement, on n'est pas dans le fun à grogner que j'adore d'habitude. C'est pour ça que, à ma grande honte, j'aurais pu en parler il y a 15 jours avant l'interview de Monsieur Mad. Mais effectivement, je me suis dit, est-ce que je vais... Bon, c'est très bien. Ça se lit à une vitesse folle. On est dans l'univers du western. Histoire classique, on ne peut plus classique. Papa va faire les courses avec les gosses quand il revient. Maman est découpée en rondelles. Elle a été, violée, comment dirais-je, massacrée à mort. Et ces salauds-là ont mangé la soupe.
Ah, la bande à cruelle.
La bande à cruelle. Donc, le bonhomme, ça lui plaît pas vraiment. Donc, il vend sa ferme. Il embarque ses gosses vers une quête folle après avoir été voir le shérif.
Moi, j'imagine Clint Eastwood, j'imagine ce genre de western.
On est là-dedans, c'est clair. Et donc, il va voir le shérif.
Est-ce qu'il neige ? Est-ce qu'on est en hiver ?
On est en hiver, naturellement. Même le vieil Indien, il croise un vieil Indien, dit « Non, homme blanc, ne pas aller là, c'est la folie furieuse, même nous, on n'y va pas, Jean. » Et il a été voir le shérif, et c'est un vieux shérif très compréhensif qui lui dit « Tout seul, je peux pas quitter la ville pour poursuivre ces mecs-là, quoi.
J'ai beaucoup de papiers à classer.
Donc, le pauvre bonhomme, il peut plus vivre, quoi. Sa maison est maudite, donc il embarque sa fille aînée et son fils cadet dans sa quête pour massacrer les bourreaux de sa femme. Et là où il y a deux choses qui, à mon sens, rendent cet ouvrage très très intéressant et original. Intéressant, c'est la façon dont ce monsieur traite la neige. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais la neige, normalement, c'est blanc. Mais avec monsieur Vautier, elle n'est pas seulement blanche, elle a effectivement les couleurs de la neige. Et on a, à un moment donné, un combat entre ces trois malheureux et la tempête. Et la neige, cette tempête de neige est carrément magnifique.
Alors, j'ai l'esprit mauvais, mais tu sais, je repensais à un truc que nous avait raconté. Oh, je ne sais plus quel dessinateur.
Tout à fait, un dessinateur qui est dans Fluide, un ami de Laurent Lefebvre, un monsieur de Nancy.
Non, c'est pas ça que je pense.
Qui avait adapté le roman de Renard et qui se plaignait qu'il neigeait plus dans son bled et il ne savait plus dessiner la neige.
Non, moi je repense à une interview où un type nous avait dit, vous savez, c'est les nuages de poussière, c'est bien pour cacher les sabots et les boulets des chevaux, parce que c'est hyper chiant à dessiner. La neige, c'est pas un peu le même truc quand même?
Non, pas tout à fait, parce que monsieur Vautier, c'est un amoureux de la neige. Il a déjà rempli des tonnes de carnets de croquis pris sur le vif dans la nature. Il adore la nature et ça se sent, et il nous la représente non pas d'une manière réaliste, mais d'une manière très très impressionniste en fait. On a vraiment l'impression d'avoir la neige qui vous cingle, qui vous refroidit. On a froid en même temps que le gamin. Et donc ça, c'est la première chose, sa façon d'utiliser, sa façon de présenter les éléments. Et la deuxième chose que je trouve très très intéressante, c'est le découpage. Parce que on commence, première scène, pouf, on voit le propriétaire de la ferme qui part faire les courses, et au lointain, on voit les trois connards qui vont arriver. Et après, le bouquin commence, la vengeance. Et scène suivante, au début du bouquin, le bonhomme est déjà sur le chemin des bandits, déjà dans les montagnes, où les bandits étaient partis se réfugier, parce que comme ça, ils sont un peu tricards, hein. Tout ce qu'ils croisent, ils butent, quoi. Ils butent, ils dépouillent, c'est la bande à cruelle. Et donc, ils sont déjà dans la neige, et c'est à coup de flashback, comme ça, on va se déplacer dans le temps et dans l'espace, que l'on va remonter à la source véritablement et au moteur de la haine qui anime notre personnage principal, le papa des deux gamins, dans sa poursuite. Mais c'est flippant parce que dans sa poursuite folle, il n'a pas voulu confier ses gosses à une dame patronesse du village, il les a emmenés, mais c'est de la folie furieuse, quoi. T'emmènes pas, dont le gamin, il a du mal à tenir à cheval, tous les jours il pigne, il en a plein le cul, et il a quoi, entre 6 et 8 ans. Et il lui impose l'enfer au risque de le perdre. Et ce découpage en petites séquences comme ça, séquences dans le réel, séquences dans le passé, et puis des points de vue comment opposés entre les bandits et puis le personnage principal, c'est absolument génial et ça se lit à une vitesse folle. Et Dieu merci, et j'en suis gré à monsieur Vautier, parce que moi, vous savez bien, moi, ce que je ne voulais pas voir, effectivement, c'est la scène du viol. Et monsieur Vautier a pensé aux trouillus comme moi et aux fleurs bleues comme moi, c'est-à-dire qu'on est là, ils rentrent, ils discutent trois mots avec la bonne femme, ils s'emparent de son fusil, et voilà, quoi, on sait que ça va mal tourner. Et ça suffit, vous savez, c'est comme quand parfois, trois mots suffisent pour décrire une horreur absolue. Mmh. Pas besoin de faire dans le démonstratif. Le démonstratif, il réserve ça à sa façon de décrire les éléments et sa façon de découper l'histoire. Je ne connaissais absolument pas Monsieur Vautier, dont il paraît déjà quand même que Monsieur Bertheil apprécie le travail. Et quand Monsieur Bertheil apprécie votre travail, ce n'est quand même pas rien.
Très bien.
Voilà. Ça s'appelle La Vengeance, un vrai western. Et n'allez pas vous faire avoir comme moi avec le résumé de la quatrième de couverture, parce que c'est beaucoup plus original dans le traitement et la façon d'être dessiné qu'on peut le penser. C'est paru aux éditions en Spar ou en Spach, si comme moi on ne prononce pas le CE, CH en RE. Et ça c'est réalisé par Monsieur David Vautier, avec un W, Vautier.
Je rebondirai un peu sur votre chronique, parce que j'ai amené le Manu Larsonnet, La Route, et c'est intéressant, il y a des échos, notamment un père et son fils là aussi qui voyagent ensemble dans un...
Ah, vous l'avez vu alors ?
Ouais, bah j'en parle après. On va d'abord s'écouter, programme Monsieur Roger, Little Walter ?
Little Walter, tiens, pour
Teenage
nous
Beast.
Un peu dans une ambiance western.
Non, Teenage Beat, pardon.
Teenage Beat, vous
êtes plus de la beat que du beast.
Vous allez voir, c'est excellent. Pas de parole, excellent.
Little Water, Teenage Beat, avec un B.
Voilà, B-E-A-T. Allez-y, vous avez un livre très drôle à nous chroniquer.
Je pense qu'il a été beaucoup chroniqué déjà. On en a beaucoup parlé. C'est passé, je pense, à la télé, sur Internet, partout, tout ce que, tout le, tous ceux qui s'intéressent à la BD sont forcément au courant de la sortie de La Route de Manu Larsonnet. Bah je vais, en fait, bah je vais être un peu comme tout le monde. Hein. C'est un chef-d'œuvre. Alors c'est vrai que déjà le récit de base, le roman de Cormac McCarthy est quelque chose d'extrêmement puissant. La preuve, Hollywood s'en était emparé et avait fait un plutôt bon film avec Viggo Mortensen. Un récit post-apocalyptique, mais vraiment dans le post-apocalyptique où c'est vraiment les derniers petits bips de l'humanité, t'as l'impression. On est vraiment sur les dernières petites étincelles de bonté et justement de ce qui a fait l'humanité. On est dans un monde vraiment... il a brûlé du jour au lendemain, il n'y a vraiment plus rien. On est dans ce qui semblait être les États-Unis. On suit deux espèces de vagabonds célestes, un père et son fils, qui poussent un chariot comme ça, qui suivent la route, qui essayent de descendre vers le sud parce qu'il y fait un peu plus chaud. Puis il y a la mer. C'est une espèce de quête utopique comme ça. Ils sont lancés dans un monde où tout a cramé. Donc vraiment là, on est dans la lutte pour la survie la plus totale. L'eau est devenue hyper précieuse, la bouffe est devenue hyper précieuse. Et puis il y en a pas pour tout le monde. Il y a plus d'animaux, il y a plus rien. Il y a des nuages de cendres partout. En fait, les personnages même portent des masques. Le père d'ailleurs a des problèmes de poumons. Tu le sens bien à cause de tout ce qu'on respire. Vraiment tout a décarbonisé. Tu sais pas trop pourquoi. L'important c'est l'histoire de ce père et ce fils, avec un père qui essaye de garder propre son enfant et essaye de lui masquer le pire qui a lieu autour de lui, parce que comme il n'y a plus rien à bouffer, il reste un seul truc à bouffer. En fait, c'est tu tombes sur un de tes conjoints, tu le bouffes. On n'est plus que des réserves de bouffe sur pattes, quoi. Donc il y a des bandes qui traînent, des affreux. Ta bande à Cruelle, elle est gentille, mais là s'il te chope, il te viole et ensuite il te bouffe, quoi. Ouais.
Ça, c'est pour donner du goût, c'est pour
attraper. Voilà, c'est exactement. Et donc, c'est vrai que le récit de base, il est superbe et il est terrible par la vision de l'humanité qu'il donne. Et elle est très belle, cette histoire de père et de fils, parce que vraiment, il est sous la tension de le protéger, physiquement, mais aussi moralement. Il lui raconte qu'ils sont des gens bien, donc qu'ils sont différents, qu'ils portent le feu. Enfin, tu vois, et vraiment, il essaye de le préserver aussi moralement pur, quoi. Il y a une fois, il essaye de garder en lui une innocence dans un monde où, à chaque fois que tu tombes sur un de tes semblables, putain, tu stresses parce
faut
que.
Ouais.
Et c'est que des rapports de force. Il y a des, enfin, c'est assez terrible. Et alors, Manu Larsonnet, vraiment, maintenant, il est au sommet de son art graphique, quoi. Du coup, j'ai même re-regardé des vieux trucs, des Bill Barou, de la loi des séries. Qu'est-ce qu'il a évolué comme dans son dessin, quoi. Et ça va super bien. Il est assez fidèle dans l'adaptation. C'est-à-dire que finalement, c'est une BD à l'os, tu sais, pas de narratif. C'est vraiment beaucoup d'images. Il raconte beaucoup par son dessin. Enfin, pour découvrir le monde de merde où on est, il te fait vraiment des petits gaufriers avec à chaque fois un petit zoom sur un élément de décor. Tu comprends que c'est horrible, quoi. Tu comprends que le monde est fini. C'est graphiquement, il est vraiment impressionnant. Je vous conseille d'ailleurs la version finalement en couleur, parce que il est sobre dans les couleurs.
Il y a deux versions qui sont sorties.
Ouais, il y a une version en noir et blanc. Et franchement, je trouve que il est très sobre mais ça rajoute encore à la beauté graphique du truc, quoi. Il y a quelque chose. Vraiment maintenant, qui me fait beaucoup penser aux Italiens, mais tu sais, aux grands Italiens, aux Battaglia, aux Rossi, tu sais comment ils pouvaient avoir des dessins méticuleux et précis. Je trouve vraiment qu'il y a quelque chose de ça, et puis une petite influence quand même comics américaine. Vraiment, il est au sommet de son art, et c'est puissant, quoi.
C'est chez
Dargo. C'est des très beaux albums et oui, c'est fort, quoi. C'est sans doute une des BD du top 5 final. Ça va être dur de détrôner. Et puis je suis content de revoir Monsieur Larsonnet. On sait qu'il est pas toujours au mieux de sa forme, mais là vraiment, je pense que d'ailleurs c'est un peu le reflet d'un moment un peu où il devait être un peu down.
Je rebondis sur quelque chose qui n'a strictement rien à voir.
Plus court que vous.
Rien à voir. Et c'est histoire que de ne pas laisser, si c'est la dernière chronique de l'émission, de ne pas laisser nos auditeurs totalement désespérés avec un ouvrage au titre prophétique en attendant la fin du monde.
Nous sommes raccord, c'est incroyable.
Tome 1. L'actu en bonhomme et bâton. Je vous ai toujours déjà dit mille une fois tout le bien que je pense de Monsieur Marc Dubuisson. Et c'est sans doute ce que pensent de plus en plus de lectrices et de lecteurs.
C'est le bouquin que je vous ai dit qu'il était là.
Ouais, voilà, qui m'avait même pas dit les autres, là, dans la boutique.
Dans la boutique,
Terral, non. Putain, on est obligé de... Bientôt, il faut arriver avec une lame pour leur mettre une lame sur la gorge pour avoir le livre. Ils veulent pas vous le vendre. Je sais pas. C'est pour blanchir de l'argent, cette histoire-là.
Je sais pas.
Est-ce qu'ils vendent des livres? On sait même plus s'ils vendent des livres. Bref, quand on leur fait peur, quand on rappelle qu'on sait où ils mettent leurs gosses à l'école, il arrive quand même qu'on arrive à leur acheter des livres. Je leur en ai acheté deux. Enfin, si j'en avais acheté que deux, mon compte en banque se porterait mieux. Mais bon, j'en ai acheté un paquet. Notamment en attendant la fin du monde, 1 et 2, format à l'italienne, ça c'est bien, merci monsieur Dubuisson, vous au moins, à la différence de monsieur Larsenet, vous pensez aux bibliothèques surchargées, et qui sont pleines comme des œufs, parce que je sais pas où vous allez ranger votre sur la route, j'aimerais bien savoir où vous allez ranger votre gros livre.
Dans ton cul.
Voilà, alors il vaudrait beaucoup mieux que vous m'enfiliasse avec en attendant la fin du monde, qui est...
Oui, c'est format strip.
Voilà, format strip à l'italienne, épais quand même, mais souple. Oui, alors qu'il a l'air dur.
En hiver.
Ouais, la couverture a l'air coriace.
En été, on peut s'en servir comme éventail en plus.
Et on peut s'en servir comme éventail.
Ça fait téléachat votre truc.
C'est
là,
génial,
pour le moment.
C'est absolument génial. Merde à faire le con, j'ai perdu ma page. En fait, en plus, c'est pratique parce qu'il y a des petits rabats sur le côté.
Des signés.
Voilà. Non, c'est pas vraiment des signés. Le signé, pour moi, c'est la ficelle, vous savez.
Ah oui, c'est vrai.
Là, comment dirais-je, c'est plus de la... Du... Ouais, un rabat, appelons ça.
RABA.
Ou un rabat. Donc, monsieur Dubuisson, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, c'est un monsieur qui dessine, effectivement, des bonhommes à bâton, c'est-à-dire une tête ronde, avec un petit corps carré, complètement enfoncé dans la tête, et en guise de bras et de mains, et ben, des bâtons pliés. Voilà. C'est hyper efficace, ça suffit, et c'est très bien. Alors, vous faites sienne qu'il n'y a plus que j'en ai que pour 3 minutes.
Non, vous avez encore le temps de 3 minutes si on veut passer un dernier morceau.
Ok. Alors, mais il n'empêche que monsieur Dubuisson, même s'il s'en défend, est un artiste. C'est-à-dire que moi, je pourrais effectivement reproduire ces petits ronds et ces petits carrés et ces bâtons. Ça sera toujours du Roger, c'est-à-dire vilain, maladroit, tremblotant. Alors que lui, ces petits bonhommes, eh ben, ils sont super expressifs. Et là, cerise sur le gâteau, dans cet ouvrage paru aux éditions Exemplaires, voilà, parce que de plus en plus, effectivement, maintenant...
C'est
je
eux
peux...
qui font Francis Blaireau Farceur ?
Ah non, ça c'est ça paraissait chez Fluide, ça. C'était Jacques Rénal et je ne sais plus
c'est
qui
ça,
c'est
Jacques
ça.
Rénal.
Et mais pas tout ça avec quelqu'un d'autre.
Il y a une fille.
Ouais, il y a une fille avec lui. Oh, grande honte, voilà qu'on ne sait plus. Mais
on saute au piège.
Voilà, une question piège en plein commentaire. Et donc ces personnages, lorsqu'ils font la gueule, lorsqu'ils rigolent, lorsqu'ils pleurent, lorsqu'ils bavent, eh bien ils sont crédibles, même si ce ne sont que des ronds et des bâtons. Et en plus, la particularité de monsieur Dubuisson, c'est de nous servir ça dans l'humour. Alors, c'est assez rigolo, je ne sais pas pourquoi, mais depuis ces deux ouvrages, parce que j'ai acheté le numéro 2, parce que en attendant la fin du monde, tome 1 et tome 2 sont sortis en même temps, si j'ai bien compris.
C'est Cornelius, votre truc ?
Non, c'est l'édition Exemplaire.
Moi, je pensais aux éditions Cornelius.
Alors. Ah oui. Non, Exemplaire, la maison fondée par... Madame Lisa Mandel.
C'est tous les mêmes gitans, de toute façon.
Voilà. Eh ben, vous direz ça, Madame Lisa Mandel, quand on l'aura en interview, très bientôt d'ailleurs, il faut que je m'en occupe. Et c'est très bien, en attendant la fin du monde, on rit.
Oui, c'est drôle.
C'est super drôle, je ne vais même pas vous les massacrer, je vous en ai déjà massacré à chaque fois, comment dirais-je, là-dessus. Mais alors, par contre, ce qui est assez bizarre, c'est que cette fois-ci, en dessous chaque strip, il y a un petit texte où il explique. Il explique, par exemple, si je vois des tours vers le futur, soit il commente le strip, ou soit il s'en explique, etc. Parce qu'effectivement, et c'est là où ça devient intéressant et à moitié flippant, monsieur Dubuisson n'est pas sans ignorer que maintenant le dessin peut tuer. Pas le dessin parce qu'on va vous le faire bouffer, mais parce qu'il y a des gens qui vont effectivement vous buter parce que vous avez dessiné ça. Et monsieur Dubuisson, qui parle d'actualité, qui parle des rapports hommes-femmes, etc., etc., eh ben, ils se sont obligés maintenant de commenter bientôt tous ces strips. Alors, j'espère que moi, perso, je suis pas vraiment pour ça, quoi. Il va falloir que, effectivement, les gens acceptent ou vous n'achetez pas. Si vous n'aimez pas monsieur Dubuisson, vous n'achetez pas. Vous auriez
déjà que Roger, il a du mal à avoir ses albums à lui. Laissez-les lui.
Ouais, laissez-les lui. Et voilà, si vous aimez pas un truc, vous ne l'achetez pas. Point. Moi, j'aime pas France Gall. J'ai jamais été à un concert de France Gall. J'allais pas faire un procès à France Gall parce qu'elle m'a massacré les oreilles à chaque fois pendant qu'elle passait et que ma frangine me la passait de force. parce qu'elle avait profité, qui a été plus grande que moi. Voilà. Et là, Erwan me fait vraiment signe que je ne peux plus dire grand-chose.
Rappelez si quand même votre album.
En attendant la fin du monde, tome 1 et 2, monsieur Marc Dubuisson, aux éditions Exemplaires. Alors, il se peut que votre libraire, comme c'est une maison d'édition parallèle, se fasse tirer l'oreille. Vous insistez, vous avez le droit. C'est un droit d'avoir les éditions Exemplaires chez son libraire. Sinon, eh ben, vous tapez édition Exemplaires et puis vous achetez ça avec votre carte bleue. Et tant pis pour les libraires. Voilà.
Yes, Desert Mountain Tribe, take voilà. A ride. Voilà, voilà. Pour toi, l'interné, bis repetita. Qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà qui vient clore cette 477e. On avance, ouais, hein, on avance.
On avance, bientôt les 500.
On avance,
ah, je sais pas si on attendra les 500 d'ici, ça m'étonnerait. 23,
non. Mais je serais content quand on sera aux 500. Je trouverais qu'on a... Ça fait que... Ça sera commémoratif.
Voilà, ça fait un chiffre rond et on aime bien les chiffres ronds, ronds comme les bulles de bande dessinée que nous vous chroniquerons tous les lundis et samedis si vous êtes levé tôt.
Et peut-être même bientôt une interview dans nos studios. Un secret, mais bon, secret. Bonne lecture.
Tant qu'on a le droit.
Tant qu'on a le droit, voilà. Et n'hésitez pas à nous envoyer des chroniques. Ouais. Marilyn, on attend toujours votre chronique.
Il y a la petite Marilyn de 5e B qui nous a pas encore envoyé sa chronique.
Ouais, j'aime bien la pâture, je veux bien la BD là. Ouais, on attend toujours.
Voilà.
Hein, et puis si vous voulez vous y mettre aussi, vous trouverez le lien. Merci aux Grignoux de nous prêter leur adresse sur le blog de Plume et Pinceau. Allez, à la semaine prochaine, bonne lecture. Tant qu'on a le droit.